Chapitre 11. Dans la grande chambre, Claire resta seule. Ses yeux errèrent vaguement autour d'elle. Cette pièce était sévère et recueillie. Les lampes éclairaient doucement les vieilles tapisseries dont les murs étaient recouverts. C'était l'admirable série des amours de Renaud et d'Armide. Sous une tente de pourpre et d'or, le chevalier, couché au pied de l'enchanteresse, souriait en levant d'un bras de l'anguille une large coupe ciselée. Plus loin, les deux chevaliers libérateurs traversaient la forêt enchantée, écartant à l'aide du bouclier magique les monstres qui tentaient de leur barrer le passage. Et enfin, dans la bataille livrée par les chrétiens aux troupes du Soudan sur les murs de Jérusalem, Armide, debout sur son char traîné par des licornes blanches, lançait avec rage contre Renaud, couvert du sang des infidèles, les redoutables traits de son carquois. Un merveilleux bahut de la Renaissance, en ébène incrusté de marbre polychrome, se dressait dans un panneau, faisant face à un très beau lit à colonnes, en poirier sculpté, dont le ciel était entouré d'un lambrequin en velours de gêne, fond maïs à large bouquet de fleurs. Un admirable coffre à tiroirs de style Louis XIII, en bois noir, orné de cuivre, remplaçait la banale et ridicule commode. Une superbe glace, encadrée dans une bordure de bronze très finement découpée en forme de feuillage, réfléchissait les clartés mourantes du feu qui brûlait dans une haute cheminée en grès, dans le rétable de laquelle était enchâssée une remarquable toile de l'école espagnole, représentant une infante blonde, guindée dans la roideur de son costume, le menton appuyé sur une fraise de dentelle et respirant une rose avec un mélancolique sourire. De grandes appliques en cuivre attachées au mur et un lustre flamand tombant du plafond à caissons complétaient ce simple et riche mobilier. Claire resta indifférente à ce qui l'entourait. Elle songeait. Tant qu'elle avait été entraînée par l'ardeur de son désir, elle s'était fait illusion sur la situation dans laquelle elle allait se trouver. Elle n'avait pas voulu penser à ce qui arriverait après la conclusion du mariage. Elle s'était hâtée de le conclure fiévreusement, avide de consommer l'acte qui, aux yeux du monde, devait la relever de l'injure que le duc de Bligny lui avait faite. Et voilà que, brusquement, elle se trouvait en face de la réalité brutale. Les charnelles nécessités du mariage lui apparaissaient tout à coup, révélées par cette chambre qui devait lui être commune avec son mari, par ce grand lit qu'elle allait partager avec cet homme, presque un inconnu pour elle. Sa pudeur se révolta à cette pensée. Elle eut horreur de Philippe et d'elle-même. Elle se trouva, elle, insensée d'avoir rêvé cette union. Elle le trouva, lui, indigne de s'y être prêté. Ses idées confuses tournèrent désespérément dans son cerveau. Elle alla à la fenêtre et l'ouvrit. La fraîcheur de la nuit lui rendit un peu de calme. La lune s'était détachée des nuages et éclairait les grands arbres du parc. Son disque se reflétait dans la pièce d'eau. Tout était silencieux et recueilli. Claire se demanda s'il ne vaudrait pas mieux disparaître à jamais dans cette tranquillité pure et profonde que de lutter contre les embarras honteux et répugnants de la vie. Elle eut un instant la pensée de descendre au bord de ces eaux immobiles et brillantes et, dans la virginité immaculée de son unique amour, de se confier à elle comme la pâle fiancée d'Hamlet. Mais le souci de l'opinion du monde, cette préoccupation du « qu'en dira-t-on » qui avait eu une si funeste influence sur toutes ses résolutions, la détourna de cet acte désespéré. Elle sourit amèrement à la pensée qu'Athénaïs pourrait dire qu'elle s'était tuée par amour pour le duc. Elle eut le dégoût du bruit que cette fin romanesque ferait dans son entourage. Enfin, elle ne voulut pas désoler les siens et leur imposer l'horreur presque dégradante de ce suicide. Elle adressa un dernier regard ami aux eaux dormantes et lumineuses et, refermant sa fenêtre, vint s'asseoir près de la cheminée. C'en était fait, elle le comprenait bien, elle ne s'appartenait plus. Il lui fallait vivre, et vivre lié à un homme qui allait venir, armé de ses droits, et pouvant dire « je veux » à elle, jusque-là toujours libre, toujours obéie. Elle éprouva à la fois de la crainte et de la colère. Son orgueil protesta contre cette suggestion qui lui était imposée. Elle ne voulut pas s'y soumettre et chercha les moyens par lesquels elle pourrait obtenir de son mari qu'il lui rendît sa liberté. Elle en était arrivée à rêver une sorte d'état matrimonial dans lequel chaque époux resterait maître de sa destinée. Que Philippe fût fidèle, elle s'en souciait peu, pourvu qu'il fût respectueux et soumis. Qu'il fît ce que bon lui semblerait, à la condition de la laisser maîtresse d'elle-même. Serait-il donc si difficile d'obtenir du maître de forge, un ambitieux sans doute, qu'il eût quelque complaisance pour une femme qui allait apporter dans sa maison une fortune considérable et le faire bénéficier de sérieuses influences de famille? Il l'aimait cependant, elle l'avait bien compris. Mais elle ne voulut pas tenir compte de ce sentiment. Avec son despotisme, de femme habituée à tout plier à son caprice, elle écarta cet amour qui la gênait et résolut, si Philippe se montrait exigeant, de lui tenir tête. Elle était énergique et fière, capable de discuter et de lutter. Elle ne douta pas un instant qu'elle ne pût vaincre même de sérieuses résistances et ne pensa pas une seule fois, dans son égoïsme implacable, aux blessures qu'elle allait faire au cœur de cet homme qui l'adorait. Un bruit de pas, retentissant dans la pièce voisine, la fit soudain tressaillir. Tout son sang lui monta au visage. Incapable de rester en place, elle se leva et s'accoudant, frissonnante, à la haute tablette de la cheminée, elle murmura « C'est lui !» Philippe, ayant fait les honneurs de la maison à ses parents et à ses amis, et les ayant vus s'éloigner les uns après les autres, était resté seul. Il s'était dirigé presque machinalement vers sa chambre de garçon. Celle qu'il devait habiter avec sa femme était l'ancienne chambre de son père et de sa mère. Il pensa, avec un trouble délicieux, que tout près, séparé seulement par quelques portes, plus émue encore que lui, dans sa blanche toilette, celle qu'il aimait attendait sa venue. Il avait souvent pensé à l'heure adorable qui mettrait dans ses bras cette jeune fille si belle, et il avait frissonné de volupté. Il s'étonna de trouver ses sens engourdis. Aucun désir ne l'entraînait. Il était grave, préoccupé et très attendri. Son amour pour Claire s'était doublé d'une sorte de tendresse protectrice. Il se jugeait appelé à guérir ce cœur faible. Et il se sentit repris de cette affection qu'il avait eue pour sa sœur quand elle était enfant. En lui-même, il remercia la Providence qui lui avait accordé la possession du trésor si ardemment convoité. Et il se promit d'être digne de la faveur qui lui était faite en assurant le bonheur de Claire. Il se surprit ainsi dans sa chambre, assis dans un fauteuil, rêvant et très absorbé, une demi-heure après le départ des derniers invités. Il sourit et se trouva un peu sot. Puis, se levant vivement, il passa dans son cabinet de toilette. La grande glace de son armoire lui renvoya son image et, se voyant vêtu de son costume de mariée, il pensa qu'il serait souverainement ridicule à lui de se présenter devant sa femme avec cet habit noir et cette cravate blanche. Il mit un costume du matin bleu foncé et, le cœur palpitant, ressaisi par une émotion inexprimable, il se dirigea vers la chambre de Claire. Ayant traversé le petit salon, il frappa du bout du doigt contre le bois de la porte, sans recevoir de réponse. Pensant avoir suffisamment annoncé sa présence, il entra. Claire, encore vêtue de sa robe de mariée, était debout, muette, grave, le coude appuyé à la haute cheminée. Elle ne tourna pas les yeux vers lui, elle baissa seulement un peu la tête, et Philippe vit la torsade épaisse de ses cheveux blonds étincelée sur sa nuque blanche. Il s'avança lentement et, parlant avec effort, « Voulez-vous me permettre de m'approcher de vous ? » dit-il. De la main, Claire fit un geste d'assentiment. Profitant de l'autorisation, Philippe se glissa jusqu'à la chaise longue et s'assit, courbé, presque aux pieds de la jeune femme. Il la regarda attentivement. Son visage, crispé et dur, l'étonna. Il lui connaissait cette expression farouche et menaçante. Il la lui avait vue quand elle se trouvait en présence du duc. Il fut inquiet de voir Claire ainsi ramassée sur elle-même, comme prête à la lutte. Il ne pouvait deviner les projets de la jeune femme, mais instinctivement, il pressentit une résistance. Il voulut pénétrer enfin dans ce cœur si obstinément fermé, avoir le mot de l'énigme, et autant il était ému un instant auparavant, autant il redevint calme. Ce changement dans l'esprit de Philippe était inquiétant pour Claire. Elle eût pu avoir facilement raison d'un mari troublé et hésitant. Le mettant sur ses gardes, elle lui rendait toute sa clairvoyance pour deviner, toute son énergie pour combattre. « Pour la première fois, nous voici seuls, » dit Philippe à voix basse, « et j'ai pour vous bien des choses dans le cœur. Jusqu'ici, je n'ai pas osé parler, j'aurais mal exprimé mes sentiments. Toute ma vie s'est passée dans le travail. Aussi, je vous supplie d'être indulgente. Ce que je ressens, croyez-le bien, vaut mieux que ce que je dis. Bien souvent, vous m'avez vu venir à vous, balbutier quelques paroles, puis garder le silence. J'avais peur de vous paraître trop hardi ou trop timide, et cette crainte me paralysait. Alors je me bornais à vous écouter, et votre voix était douce à mon oreille comme un chant. Je me perdais dans votre contemplation, oubliant tout pour vous suivre des yeux quand vous marchiez sur la terrasse dans un rayon de soleil. Vous êtes entré ainsi profondément en moi. Je vous ai adoré. Vous êtes devenu ma pensée unique, mon espérance, ma vie. Aussi, jugez de mon ivresse, maintenant que je vous vois là, près de moi, tout à moi. » Et, saisissant la main de Claire entre les siennes, Philippe la posa passionnément sur son front enflammé. La jeune femme fit un mouvement et retira sa main. « Par grâce, monsieur » murmura-t-elle avec lassitude. Philippe releva vivement la tête et regardant Claire plein d'étonnement. « Qu'avez-vous » dit-il. « Suis assez malheureux pour que mes paroles vous déplaisent. »« Ne me les dites pas en ce moment, » répondit Claire avec douceur. « Je vous en prie. Vous le voyez, mon trouble est profond. » Philippe fut ému par l'accent douloureux de la jeune femme et hochant tristement la tête. « Mais oui, vous êtes pâle, tremblante. Est-ce donc moi qui en suis cause ?» Claire détourna les yeux pour cacher deux larmes qui coulaient sur ses joues, et d'une voix tremblante répondit « Oui ». « Rassurez-vous, je vous en supplie, » reprit Philippe. « Ne sentez-vous pas que mon seul désir est de ne point vous déplaire ? Que faut-il que je fasse ? Exigez, tout me sera facile. Je vous aime tant. » La jeune femme tressaillit de joie. Une lueur d'espoir brilla dans l'obscurité où elle se débattait. L'ardeur passionnée de son mari lui fit comprendre quel pouvoir sans borne elle exerçait sur lui. Et sans pitié, elle résolut d'en abuser. Elle se fit coquette et, pour la première fois, regardant le maître de forge avec un fin sourire, « Si vous m'aimez, dit-elle, alors !» Elle n'acheva pas, mais elle fit un geste d'autorité que Philippe comprit bien. « Désirez-vous que je vous laisse ? Dit-il avec soumission. « Est-ce là l'épreuve qu'il vous plaît de m'imposer ? Je m'y résignerai si c'est votre volonté. » Claire respira avec délice. Elle se sentit maîtresse absolue de cet homme qui lui avait causé une si grande frayeur. En un instant, l'expression de son visage changea. Elle montra à Philippe un front rayonnant. « Eh bien oui, dit-elle, je vous en saurai gré. Les émotions de cette journée m'ont fait mal. J'ai besoin de calme, il faut que je me recueille. Et demain, plus tard, plus en possession de ma pensée, plus sûre de moi-même, « je vous expliquerai. » Philippe resta un moment silencieux. Dans les paroles de Claire, quelques mots lui avaient paru sonner faux. Cet atermoiement embarrassé lui sembla suspect. Il y avait là un mystère qu'il résolut de mettre à jour. « Que me direz-vous demain ou plus tard que je ne puisse entendre aujourd'hui ? » reprit-il. « Ma vie et la vôtre ne sont-elles pas désormais inséparables ? Notre chemin est tout tracé. » À vous d'être confiante et sincère, à moi d'être dévouée et patient. J'y suis prêt, je vous l'assure. Êtes-vous dans les mêmes dispositions ? Le langage de Philippe était net et ferme. Il avait regardé sa femme bien en face. Celle-ci craignit de s'être avancée trop vite. Elle voulut aller en arrière. Laissez-moi vous dire que la confiance ne se gagne pas en un moment, reprit-elle. Voilà 2 heures seulement que je suis mariée. « Ma vie, hélas, date de plus loin. Cette vie, on me la faisait heureuse. J'avais le droit de penser tout haut. J'étais libre de me taire. Je n'ai jamais été forcée de mentir. Mes peines, et j'en ai eu, vous le savez, on les devinait. On comprenait que le souvenir ne pouvait s'en effacer instantanément. J'ai été très gâtée. On ne m'a jamais demandé de sourire quand j'avais le cœur triste. S'il faut que je me résigne à dissimuler auprès de vous, de grâce, laissez-moi le temps de m'habituer à cette contrainte. » Claire, avec une extrême habileté, avait déplacé la question pour se dispenser de répondre. Elle se posa en victime. Philippe, en insistant, eût paru cruel. Il le sentit. « Je vous en prie, n'ajoutez pas un mot, s'écria-t-il, allant tout devant du sacrifice. Vous me faites injure. Vous n'aurez jamais, sachez-le, d'amis plus tendres et plus dévoués que moi. En vous épousant, j'ai pris ma part de vos peines et je prétends vous les faire oublier. Fiez-vous à moi, je suis responsable de votre bonheur. Si le passé vous a déçu, espérez tout de l'avenir. Loin de moi la pensée de vous imposer mon amour. Ce que je vous demande, c'est de me laisser essayer, à force de soins et de tendresse, de vous conquérir sur vous-même. Voilà toute mon ambition. Et puisque vous avez besoin de repos, de solitude, restez chez vous, libre et rassuré comme vous l'étiez hier. Je me retire. C'est bien là, n'est-ce pas, ce que vous souhaitez? Qu'il soit fait selon votre désir. » La jeune femme, en entendant ces paroles, fut à la fois irritée et inquiète. Le maître de forge se montrait si fier et si grand que toutes les combinaisons préparées d'avance par elle pour conquérir sa liberté menaçaient de manquer misérablement. Philippe, venant au-devant de ses désirs avec une bonté inattendue, allait-elle donc pouvoir demeurer séparée de lui? Il l'adorait et il prétendait essayer de se faire aimer d'elle. Comment, sans injustice et sans cruauté, repousser éternellement un homme si loyal et si généreux? La douceur et la tendresse de son mari lui rendraient, le lendemain, la résistance impossible sans brutalité. Elle comprit le danger qu'elle courait et résolut d'y échapper en brisant résolument tous les liens qui l'unissaient à Philippe. Celui-ci, voyant Claire rester silencieuse et immobile, s'avança vers elle. Il pencha la tête et sa bouche vint effleurer le front blanc de la jeune femme. « À demain, » dit-il. Mais, en respirant le parfum de cette blonde chevelure, en sentant sur ses lèvres cette chair frémissante, Philippe fut étourdi par une soudaine ivresse. Il cessa d'être maître de lui. Oubliant ses promesses, il ne pensa plus aux susceptibilités du cœur troublé qui palpitait si près du sien. Il vit une femme adorable qu'il désirait follement et qui lui appartenait. Dans un transport irrésistible, il la saisit dans ses bras et, les yeux ardents, « Si vous saviez, murmura-t-il, comme je vous aime !» Claire, surprise d'abord, devint livide. Elle courba sa taille et, appuyant ses mains sur les épaules de son mari, elle s'efforça de fuir un contact qui lui était odieux. « Laissez-moi » cria-t-elle avec colère. Les bras de Philippe se desserrèrent. Il recula et, regardant la jeune femme qui était devant lui, tremblante, le visage décomposé par l'angoisse, « Comment, dit-il d'une voix troublée, vous ne me donnez même pas le droit d'effleurer votre front de mes lèvres? Vous me repoussez avec violence, presque avec horreur? Que se passe-t-il en vous? Ce n'est pas là seulement l'effroi de la pudeur, c'est de la répulsion. Vous me haïssez donc? Et pourquoi? Que vous ai-je fait? Tenez, vos paroles de tout à l'heure me reviennent à l'esprit, et maintenant je crains de les mieux comprendre. » Après cette déception dont vous avez souffert, il est resté plus que de l'amertume dans votre cœur. Il y a du regret, peut-être. « Monsieur !» protesta sourdement Claire. Mais Philippe s'était animé. Un commencement de colère avait fait monter le sang à ses joues et, marchant avec agitation, « Madame, les protestations vagues, entre nous, sont maintenant inutiles. L'heure des explications nettes et franches est venue. » Vous me donnez, par votre attitude, des soupçons qu'il faut que vous éclaircissiez. Une femme ne repousse pas son mari sans motif. Pour me traiter comme vous le faites, il faut... » Philippe s'arrêta. Sa voix s'était étranglée dans sa gorge, il était devenu très pâle et ses mains étaient agitées d'un tressaillement nerveux. Il respira avec force et, se tournant vers sa femme, de façon à ne pas perdre un mouvement de son visage, « Cet homme, dit-il, qui vous a si lâchement abandonné, est-ce que vous l'aimeriez encore ?» Claire comprit que l'occasion de cette rupture tant désirée par elle se présentait certaine, irrémédiable. Elle hésita cependant à la saisir. Philippe, avec sa colère puissante et lucide, lui faisait peur. Elle resta devant lui, les sourcils froncés, incertaine, le cœur bondissant, comprenant bien que sa destinée tenait à un fil. Son silence acheva d'irriter Philippe, qui, perdant toute mesure, lui saisit le bras avec force et la regardant avec des yeux enflammés. « Vous m'avez entendu ? Répondez-moi ! Il le faut ! Je le veux !» La main de Philippe sur le bras de Claire produisit l'effet d'un doigt posé sur la détente d'une arme à feu. Le coup partit. La hautaine jeune femme, froissée et entraînée par cette violence, regarda fixement son mari. « Eh bien, si cela était !» dit-elle avec audace. À peine ces mots étaient-ils prononcés qu'elle les regretta. Le maître de forge s'était dressé formidable. En un instant, sa taille grandit, son visage prit une expression terrible et, levant le poing comme un de ses lourds marteaux à battre le fer, « Malheureuse ! » cria-t-il. Claire ne recula point d'un pas. Elle baissa le front et laissa tomber ses mains avec abandon, comme une martyre prête à recevoir la mort. Philippe la vit, poussa un soupir, fit quelques pas au hasard, saisit avec rage son poing droit dans sa main gauche, comme s'il eût voulu le briser pour le punir de s'être dressé menaçant sur le front de cette femme adorée, puis, reprenant son calme, « Voyons, dit-il à Claire, mesurez bien vos paroles. Ce que vous m'avez répondu ne doit pas être vrai. C'est impossible. Je rêve ou bien vous avez voulu m'éprouver. C'est cela, n'est-ce pas ? Oh, ne craignez pas de me l'avouer, je vous pardonne d'avance, quoi que vous m'ayez fait bien mal. Il ne faut pas abuser d'un cœur comme le mien, vous le saurez un jour. C'est un jeu cruel, je vous assure. » Il s'efforça de sourire, mais ses lèvres restèrent crispées. Claire demeurait sombre et insensible, comme butée, avec la force d'inertie d'un bloc de pierre. « Mais parlez donc !» reprit Philippe, suppliant. « Dites-moi quelque chose !»« Vous vous taisez ? C'est donc vrai ?» Elle ne dit pas une parole, s'abandonnant à la destinée qu'elle s'était préparée, ayant vaguement conscience qu'elle commettait un crime, mais, dans son implacable orgueil, décidée à aller jusqu'au bout. Philippe, frappé de stupeur, s'était dirigé vers la fenêtre et, appuyant son front brûlant à la vitre, il cherchait à reprendre un peu de sang-froid. Il comprenait que l'explication horrible qu'il avait entamée avec sa femme ne faisait que commencer. Il voulut savoir jusqu'où Claire était décidée à pousser son audacieuse révolte. Il revint vers elle. « Ainsi, c'est le cœur plein d'un autre que vous avez consenti à m'épouser, » dit-il. Après l'indignité de sa conduite, après l'affront qu'il vous a laissé subir, vous l'aimez encore et vous osez me le dire? Vous m'aviez donné votre parole d'être femme loyale et fidèle. Voilà comment vous avez tenu vos engagements. Et c'est sans rougir que vous avez placé votre main dans la mienne. À quel degré de dépravation morale êtes-vous tombé? Monsieur, je ne me défends pas, dit Claire. Est-ce généreuse à vous de me faire souffrir? « Vous souffrez ? » s'écria Philippe. « Et moi, je ne souffre donc pas ? Moi qui vous aime de toutes les forces de mon âme, moi qui étais prête à tout pour vous plaire et qui ne vous demandais en échange qu'un peu d'indulgence et d'affection ? Pour satisfaire votre orgueil blessé, pour qu'on ne soupçonnât pas votre dépit, vous m'avez sacrifié, spéculant sur ma confiance, riant peut-être de mon aveuglement. Savez-vous que c'est atroce ce que vous avez fait là ? Et vous n'avez donc pas vu que depuis 15 jours je suis folle ? S'écria Claire, cessant de se contenir. Mais vous ne comprenez donc pas que je me débats dans un cercle dont je ne puis sortir ? J'ai été entraînée à ce que j'ai fait par une fatalité irrésistible. Je dois vous paraître une créature misérable. Vous ne me jugerez jamais aussi sévèrement que je me juge. J'ai mérité votre colère et votre mépris. Tenez, prenez tout de moi, excepté moi-même. « Ma fortune est à vous, je vous l'abandonne, quelle soit la rançon de ma liberté. »« Votre fortune, vous m'offrez, à moi ?» s'écria Philippe. Il fut sur le point de parler et, dans son indignation, de lui apprendre cette ruine qu'il avait mis tant de soin et de délicatesse à lui cacher. Quelle vengeance à tirer de la hautaine Claire, et comme elle était sûre, rapide et cruelle. Il repoussa bien loin cette pensée. Il la trouvait indigne de lui, et tout à fait calmé par la satisfaction qu'il éprouva en se trouvant si supérieur moralement à la jeune femme, il put la regarder sans colère. En vérité, dit-il froidement, est-ce que vous me prenez pour un homme qui se vend? En vous épousant, dans votre pensée, j'aurais donc fait une spéculation? Vous vous trompez, madame. Vous croyez avoir encore affaire au duc de Bligny. » Le coup atteignit directement Claire et bondissant, comme si, en outrageant le duc, on l'eût outragée elle-même. « Monsieur ! » cria-t-elle en foudroyant Philippe d'un regard. Mais aussitôt, comme honteuse, elle garda le silence. « Eh bien, pourquoi vous arrêter ? » reprit le maître de forge avec amertume. « Défendez-le donc ! C'est le moins que vous puissiez faire pour lui. Vous êtes parfaitement en mesure de l'apprécier. Votre conduite ressemble tout à fait à la sienne. Calcul et duplicité, telle est votre règle, n'est-ce pas ? Oh, je vois clair maintenant. Vous avez voulu prendre pour époux un homme qui fut en votre dépendance et vous l'avez choisi, bien épris et bien confiant. Une union avec moi était une mésalliance, mais ma docilité devait compenser la bassesse de mon origine. Si, par hasard, je songeais à me révolter et à faire valoir mes droits, on avait de quoi me fermer la bouche. Un sac d'écus. Et en effet, que pouvais-je dire ? Mari d'une femme si noble et si riche, moi, un être vulgaire et cupide, voilà ce que vous avez combiné. Et quand venez-vous me l'avouer ? Honnêtement, sans doute, une heure avant la cérémonie, assez à temps pour que je puisse refuser le marché ? Non pas ? Vous ne me laissez comprendre que quand je ne puis plus me rejeter en arrière, quand tout est fini, signé, irrévocable, quand je suis bien sûrement votre dupe, et que vous n'avez plus à craindre que je vous échappe. Et moi, aveugle, qui n'ai pas vu le piège. Niais, qui n'ai rien soupçonné de cette piquante intrigue. Moi, qui suis venu tout à l'heure, palpitant, tremblant, faire ici ma déclaration d'amour. N'étais-je pas plus qu'insensé, plus que grotesque? N'étais-je pas cynique et ignoble? Car enfin, j'ai votre fortune, n'est-il pas vrai? Je suis payé, je n'ai pas le droit de réclamer. » Et Philippe, éclatant d'un rire effroyable, s'abattit sur le canapé et cacha son visage dans ses mains crispées. Claire avait écouté, sans protester, cette terrible apostrophe. Elle fut plus blessée par les reproches de son mari qu'elle ne fut touchée par sa douleur. Elle s'était mise hors du droit. Et la vérité l'irritait sans l'éclairer. Elle n'entendit pas le cri de souffrance de Philippe, elle ne retint que l'ironie de ses paroles. « Monsieur, dit-elle avec hauteur, brisons-la, épargnez-moi d'inutiles railleries. » Philippe écarta vivement ses mains et montrant à la jeune femme un visage inondé de larmes. « Je ne raille pas, madame, dit-il, je pleure sur mes espérances trompées, sur mon bonheur perdu. Mais c'est assez de faiblesse. Vous vouliez m'acheter votre liberté tout à l'heure. Je vous la donne pour rien. Croyez que je ne la troublerai jamais. Entre nous, tout lien est rompu et rien ne doit plus nous être commun. Toutefois, une séparation publique causerait un scandale que je ne mérite pas de subir et que je vous prie de m'épargner. Nous vivrons l'un près de l'autre, l'un sans l'autre. Mais comme je ne veux point d'équivoque de vous à moi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous apprendrez un jour la vérité. Vous saurez que vous venez d'être encore plus injuste que cruel. Et peut-être aurez-vous alors la pensée de revenir sur ce que vous avez fait. Je vous déclare dès à présent que ce sera inutile. Je vous verrai maintenant vous traîner à mes pieds en implorant votre pardon, que je n'aurai pas pour vous une parole de pitié. J'aurais pu être indulgent pour votre colère. Il me sera impossible d'oublier votre sécheresse de cœur et votre égoïsme. « Adieu, madame, nous vivrons comme vous l'avez voulu. Voici votre appartement, voici le mien. À compter d'aujourd'hui, vous n'existez plus pour moi. » Claire, sans prononcer une parole, inclina la tête en signe d'assentiment. Philippe, le cœur serré, jeta un dernier regard sur la jeune femme, espérant un retour, une défaillance qui la lui rendit au moment où il allait la perdre pour toujours. Il la vit insensible et glacée. Ses yeux n'eurent pas un regard, ses lèvres pas une parole. Il traversa la chambre, ouvrit la porte avec lenteur et la referma comme à regret, s'arrêtant encore pour écouter si un cri, un sanglot ou un soupir ne lui donnerait pas, à lui, meurtri, humilié, un prétexte pour revenir le premier et offrir de pardonner pendant qu'il en était temps encore. Il n'entendit rien. Alors, se tournant vers la porte derrière laquelle restait seule l'implacable jeune femme, Créature orgueilleuse qui ne veut pas plier, dit-il, je te briserai. Et reprenant le chemin qu'il avait parcouru une heure avant, le cœur si plein d'espoir, il rentra dans sa chambre de garçon.